Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Jean-Yves Le Drian est attendu ce jeudi en Irak. Il doit négocier un accord pour y juger les djihadistes arrêtés. Alors qu'on ne sait toujours pas combien de combattants du groupe État islamique ont déjà échappé aux Kurdes ces derniers jours à cause de l'offensive turque. Nous y revenons dans un instant. La justice belge se penche aujourd'hui sur la dangerosité de Marc Dutroux. Ses avocats demandent une expertise psychiatrique en vue d'une demande de libération. Nous irons à Bruxelles. Et puis dans ce journal, nous reviendrons sur la prise de parole d'Emmanuel Macron hier soir sur le port du voile. Pas de communautarisme ni de stigmatisation, dit-il. Jean-Yves Le Drian est donc attendu en Irak pour une visite de 2 jours. Le ministre français des Affaires étrangères vient notamment discuter à Bagdad de la lutte contre les djihadistes en Irak et en Syrie. L'offensive turque en Syrie rebat les cartes car elle cible les Kurdes qui détiennent des milliers de combattants djihadistes. Et cela oblige la France et ses alliés à adopter une nouvelle approche pour lutter contre Daesh, Franck Madvon.
La France le martèle, l'offensive turque en Syrie est une formidable opportunité pour Daesh. Les Kurdes, qui ont déjà abandonné de nombreuses localités, pourraient relâcher les milliers de djihadistes qu'ils détiennent. Des cellules dormantes peuvent se réveiller. Un diplomate s'inquiète, tous nos fondamentaux en Syrie depuis 5 ans sont remis en cause. Face à cette situation, la France appelle à une réunion de la coalition internationale contre Daesh. Et l'Irak a bien sûr joué un rôle clé dans ce combat. Son armée, les Peshmerga du Kurdistan irakien, était en première ligne. Il faut maintenant une nouvelle stratégie pour affronter le groupe État islamique et c'est pour en parler que Jean-Yves Le Drian est à Bagdad. L'Irak a sans doute besoin d'aide. La réunion de la coalition internationale pourrait se tenir dans les jours qui viennent à Washington. Par ailleurs, à ce stade, les Kurdes contrôlent encore les prisons et les camps où sont détenus les combattants djihadistes. Il n'est pas trop tard pour discuter d'un cadre judiciaire pour ces prisonniers. Parmi eux, des dizaines de Français que Paris veut voir jugés sur place.
Mais pendant ce temps, aujourd'hui encore en Turquie, un autre responsable occidental est en visite, le vice-président américain Mike Pence. Il espère convaincre le président Recep Tayyip Erdogan d'arrêter son offensive en Syrie. La Maison-Blanche menaçait hier soir encore de nouvelles sanctions économiques contre la Turquie. Restons aux États-Unis où la grève chez General Motors pourrait prendre fin après un mois complet de mobilisation. C'est une première outre-Atlantique depuis 1970. General Motors et le syndicat unique des ouvriers de l'automobile ont annoncé hier avoir trouvé un accord préliminaire sans donner toutefois plus de détails. Le texte doit encore être approuvé par le Conseil national du syndicat aujourd'hui, puis il doit être soumis à près de 50 000 adhérents en grève Loïc Loury.
Une trentaine d'usines à l'arrêt sur le sol américain et jusqu'à 100 millions de dollars de pertes quotidiennes selon les experts. General Motors se serait bien passé d'un tel mouvement social, d'autant plus que le groupe, sauvé en 2009 par Barack Obama, s'apprête à traverser une nouvelle tempête. Le secteur, véritable moteur de l'industrie nationale, en effet, se prépare à des ventes en baisse après des records depuis 2014. Une industrie par ailleurs en pleine transformation avec l'arrivée notamment des voitures électriques et autonome. Évoluer ou mourir en somme et surtout préserver sa compétitivité. General Motors pourtant va devoir faire des concessions. Ses 48 000 ouvriers réclamaient des hausses de salaire, en particulier pour les travailleurs embauchés après le sauvetage de 2009. En début de négociation, le groupe proposait 7 milliards de dollars d'investissement, 5 400 emplois en plus et des primes de près de 8 000 dollars. Mais tout cela devra donc être validé par les grévistes et ce n'est pas une certitude. Le syndicat unique de l'automobile, en effet, souffre d'une grave crise de confiance en raison de l'inculpation pour corruption de plusieurs de ses dirigeants. General Motors n'est peut-être pas encore sorti de l'auberge.
Là aussi, rien n'est encore sûr. Il n'y a pas eu d'accord hier soir à Bruxelles à propos du Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Les négociateurs cherchaient à s'entendre avant le Conseil européen qui débute ce jeudi. Berlin et Paris affichent leur optimisme quand Londres, par la voix de son Premier ministre Boris Johnson, Londres veut rester prudent. Même si un accord est trouvé, le Parlement britannique doit encore l'adopter pour le valider. Hajar Raissouni est sorti de prison hier, un peu plus tôt. La Marocaine avait été graciée par le roi du Maroc après sa condamnation à 1 an de prison pour avortement illégal et sexe hors mariage. Elle devait être libérée en même temps que son fiancé et que le gynécologue condamné avec elle. Il est emprisonné depuis 23 ans. Marc Dutroux provoque à nouveau la polémique en Belgique, car son avocat a demandé une expertise psychiatrique qui doit être examinée aujourd'hui par la justice. Pour les Belges, Marc Dutroux reste le tueur en série, l'assassin, et non pas un justiciable comme les autres. Mais la justice doit tout de même examiner sa requête, Pierre Benazet.
Marc Dutroux s'était évadé quelques heures lors d'un transfèrement judiciaire et c'est désormais un des prisonniers les mieux gardés de Belgique. Le tribunal d'application des peines tiendra donc exceptionnellement son audience au sein même de sa prison à Nivelles, 35 km au sud de Bruxelles. Une audience à huis clos où les juges doivent examiner la demande des deux avocats de Marc Dutroux de nommer 5 experts psychiatres pour évaluer son état mental et donc le risque de récidive. Si cette expertise était accordée et si elle était favorable au tueur en série, ses avocats comptent l'utiliser pour demander une libération conditionnelle en 2021. Les 5 juges devront décider à l'unanimité d'accorder ou non cette expertise psychiatrique. Il est peu probable qu'ils prennent leur décision immédiatement à l'issue de l'audience. Une première demande de liberté conditionnelle a déjà été rejetée en 2014. La condamnation à perpétuité de Marc Dutroux est par ailleurs assortie d'une peine de mise à disposition du gouvernement et il paraît peu probable qu'un dirigeant politique prenne un jour le risque de renoncer à ce moyen de prolonger indéfiniment son incarcération.
Emmanuel Macron tente d'apaiser la polémique en France autour du voile. Le président de la République s'est exprimé hier soir à l'issue d'un conseil des ministres franco-allemand organisé à Toulouse en présence de la chancelière allemande Angela Merkel. L'actualité française hier soir a pour un moment pris le pas sur l'international, Stéphane Robert.
La mise au point du Premier ministre mardi après-midi devant les députés à l'Assemblée nationale n'avait pas permis de mettre fin à la cacophonie. Édouard Philippe avait indiqué qu'il n'était pas question de légiférer pour interdire le voile aux mères accompagnatrices lors de sorties scolaires. Qu'à cela ne tienne, la députée Aurore Berger avait aussitôt fait savoir que pour sa part, elle voterait une proposition de loi que la droite s'apprête à déposer sur le sujet. Dans la foulée, plusieurs députés marcheurs avaient alors exprimé leur désapprobation à travers un hashtag sur Twitter en anglais dans le texte « Not in my name, pas en mon nom ». C'est donc Emmanuel Macron en personne, hier soir, qui a sifflé la fin de la récréation.
Faisons bloc et ne nous divisons pas pour lutter d'abord et avant tout contre la radicalisation dans notre société. Mais ne stigmatisons pas nos concitoyens. J'ai dit faire bloc. C'est ça la République.
Un peu plus tôt dans la soirée, l'Élysée avait rapporté des propos que le chef de l'État avait tenus, nous disait-on, dans un cadre privé. Propos à travers lesquels Emmanuel Macron mettait en garde contre les amalgames entre immigration et radicalisation et sur les risques de guerre civile que, selon lui, ça pouvait entraîner. En attendant, ce débat sur le port du voile lors des sorties scolaires réactive une forme de clivage entre l'aile gauche et l'aile droite de la majorité. Un clivage qui s'était déjà fait jour lors du vote de la loi Asile et Immigration au printemps 2018. Une quinzaine de députés de la majorité s'étaient abstenus pour exprimer leur désaccord.
Et j'ajoute sur ce sujet que la mère de famille voilée, prise à partie ce week-end par un député du Rassemblement National à Dijon lors d'un conseil régional, que cette mère de famille va porter plainte, 2 plaintes pour violence commise en réunion à caractère raciste ainsi que pour incitation à la haine. Les retraites dans l'actualité encore ce jeudi, alors que le Premier ministre Édouard Philippe sera dans le Jura pour en débattre. On apprend ce matin que le gouvernement envisagerait un plan B sur la réforme. Il pourrait ne l'appliquer qu'aux nouveaux entrants sur le marché du travail en 2025 et pas avant. Elle est seulement la 9e femme à entrer à l'Académie française depuis Marguerite Yourcenar en 1980. Barbara Cassin doit être officiellement intronisée aujourd'hui après avoir été élue en mai 2018. La philosophe, philologue et helléniste est aussi directrice de recherche au CNRS. Elle se plaît à faire évoluer les codes sans les casser toutefois. La traditionnelle épée qu'elle a choisie en entrant à l'Académie n'a d'ailleurs rien de traditionnel, elle s'en explique.
L'académie, c'est quelque chose qui a été fait par des hommes, dans un monde d'hommes, pour des hommes, avec une épée. Donc moi, par exemple, j'ai essayé de transformer cette épée, non pas pour tuer ou pour défendre, défendre la langue épée nue, mais plutôt pour inventer une épée non létale qui ne tue pas et qui ne puisse pas tuer, mais qui soit une épée, disons, de culture et d'inventivité qui mêle le plus ancien, puisque le pommeau de l'épée représente une statuette pré-hittite, c'est-à-dire un peu comme les statuettes pré-cycladiques, mais barbare, là, qui a été trouvée à l'emplacement où on cherchait Troie. Donc, une statuette très ancienne, politique et en même temps la garde de l'épée est comme un écran souple, comme une montre connectée et elle peut contenir virtuellement tous les textes du monde. Et puis l'épée elle-même, elle est recouverte de cuir percé de trous et elle est en fibres optiques qui inscrivent en lumière, en couleur, un peu pour faire rire mes petits-enfants aussi, plus d'une langue, qui est la devise que j'ai choisie, une phrase de Derrida.
Plus d'une langue, la phrase de Jacques Derrida sur l'épée de Barbara Cassin qui entre donc officiellement aujourd'hui à l'Académie française. De la pluie sans discontinuer, sauf sur le sud-est aujourd'hui. Voici la météo prévue et pour les températures, il faut compter 14 degrés à Rennes, Lille et Paris, 15 à Strasbourg, Lyon et Bordeaux, 21 degrés ce matin à Marseille.